Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Oui, c'est bien jeudi aujourd'hui, donc à Myriam Larraz qui va venir nous parler de sport. Voilà, un peu de tout quoi, de tennis, de hockey, de football, de foot, soccer. Voilà, international. Et puis de Novak Djokovic, qui fait un retour au tournoi majeur et tennis, exclusion des Russes et des Biélorusses. Bon, bah, les décès de la légende Guy Lafleur, elle va nous brosser tout ça. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Linda Bouchard, qui est compositrice, orchestratrice, chef d'orchestre et productrice d'ailleurs. Et puis, c'est concernant le spectacle Brasier, le portrait de Linda, c'est de la part de la SMCQ. Voilà, la Société de musique contemporaine du Québec. Ça va, ce spectacle aura lieu le dimanche 1er mai à 15h. Voilà, à la salle Pierre Mécure, c'est bien évidemment au centre Pierre Pelado, au 300 boulevard de Maisonneuve. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette grande compositrice qui est Linda Bouchard, une Québécoise qui vit à San Francisco. Voilà. C'est comme ça, une longue carrière, 35 ans, plus de ça, plus que ça d'ailleurs. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite en musique avec Luca Kanza, caméra dans le cœur.
Tango, très beau. Sur la photo c'était parfait. Duo enlacé, main dans la main, peau contre peau, accro au saguet. Tu notais tout dans ton carnet, l'écho des couleurs. La caméra dans le cœur, mais l'oiseau tout là-haut, loin au-delà des plateaux, pour la voir et l'attraper, il te faut voler. Congo, très beau. Sur la photo c'était parfait. Le ciel, les bateaux, à marée basse on s'en allait. Amour, amour, viens nager. Pagayer dans le bonheur. Allô, tes photos. Ta caméra dans le cœur, car l'oiseau tout là-haut, loin au-delà des plateaux, pour la voir et l'attraper, il te faut voler, voler. Regarde-les tous ces oiseaux. Ces oiseaux de pluie, ces oiseaux de pleurs. Regarde-les tous ces oiseaux. Ces oiseaux de pluie, ces oiseaux de pleurs.
Ces oiseaux de pluie, ces oiseaux de pleurs. Loco à 15, la caméra dans le cœur avec ses ordres de pluie, ses ordres de pleurs. Waouh, quelle belle balade! Bonjour Myriam Larache.
Bon après-midi, Fulgence, et à tous les auditeurs.
Ouais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Avec le beau temps qu'on a aujourd'hui, là, une journée ensoleillée.
Le ciel est bleu.
Ah voilà, en plus, c'est bien de le préciser d'ailleurs.
Oui.
Alors Fulgence. Je te laisse partir.
Oui, on va parler de hockey, donc au début, on n'a pas le choix. Le week-end dernier était chargé en émotions pour les Québécois et les Canadiens et tous les fans de hockey. Hein.
Oui.
La légende québécoise du hockey, Guy Lafleur, s'est éteinte vendredi à la suite d'un cancer à 70 ans.
Oui.
Je ne vais pas vous en parler parce que tout le monde en a parlé.
Tout le monde en a parlé en longueur
et en largeur. Je n'aurai rien de nouveau à vous dire, si ce n'est vous dire des fans au monde du hockey, à la classe politique, en passant par le showbiz, tout le monde a évoqué ses émotions et ses souvenirs avec lui.
Oui, oui.
Le démon blond sera toujours bien présent, on le voit dans les mémoires de notre société québécoise. Des funérailles nationales, d'ailleurs, sont prévues pour le 3 mai prochain. Mais ce qui est spécial, c'est qu'une semaine avant, Mike Bossy, une autre légende que moi j'aime bien, hein, parce que j'aime le suivre à la télé, comment il commente.
Oui.
Mike Bossy est mort une semaine avant. Alors, c'était lui aussi une légende dans, à sa manière et bien plus. Alors, ce jeudi, aujourd'hui, ce matin, se tenaient ses funérailles à lui. Donc, du légendaire hockeyeur Mike Bossy, décédé d'un cancer, lui aussi, le 15 avril dernier, lui, à l'âge de 65 ans. Alors, il faut se rappeler quand même qu'il détient le record de 50 buts en 50 matchs et devient le deuxième joueur de la Ligue à le réussir 36 ans après Maurice Richard. Il a été le joueur fétiche des Highlanders de New York pour la majorité de sa carrière. 800 personnes se sont déplacées ce matin pour l'honorer à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal. Le premier ministre du Québec aussi, François Legault, s'est déplacé sur les lieux pour rendre hommage à M. Bossy et sa famille. Donc, soulignons que la famille souhaite une cérémonie sobre à l'image du hockeyeur que tous qualifient de sympathique, drôle et surtout un grand gentleman.
Oh oui, j'ai vu ça passer aussi. Que c'était pas, on n'avait pas besoin de toute la population québécoise là-bas. C'était un peu.
C'était l'image de ce monsieur. Hein. Il était très simple. Hein.
Oui.
Et voilà. Alors, adieu Mike Bossy et adieu aussi à Guy Lafleur.
Oh oui, et que la terre leur soit légère.
Voilà. On est toujours dans le hockey avec la nomination de Carey Price. Alors, cette saison 2021-2022 n'aura pas été celle espérée pour notre indispensable Carey Price du Canadien de Montréal. Néanmoins, le gardien obtient une petite récompense. C'est Price qui est le joueur mis en nomination chez le Canadien en vue de l'obtention du trophée Bill Masterton. Ce prix est remis annuellement au joueur de la LNH qui s'est le plus démarqué pour sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement au hockey. Rappelant que Price, opéré à un genou au mois de juillet, a tenté un retour au jeu presque toute la saison. Ça a mis du temps car finalement il n'est revenu que le 15 avril dernier. Et hélas, en 4 matchs, il n'a toujours pas remporté la victoire. On ne peut pas non plus faire des miracles. Hein. L'entraîneur Martin Saint-Louis a déclaré aux médias que le gardien vedette allait devoir prendre une autre pause. Toutefois, il n'est pas exclu qu'il puisse disputer le dernier match de la saison ce vendredi, Fulgence, si tu veux y aller. C'est la dernière chance que tu as d'aller voir, vendredi soir, au Centre Bell. Alors, je sais que tu ne vas pas courir, je le sais.
Ouais. Non, je ne vais pas courir. Ah non, tu sais, Myriam, quand tu parlais de son retour la dernière fois, je t'avais demandé s'il était vraiment, vraiment, vraiment prêt.
Oui,
s'il était
mais
prêt,
que
voilà.
Aussi, tu sais, comme dans tous les sports, on a besoin de pratique, hein. Alors, il est arrivé le 15 avril, c'est sûr qu'il ne va pas faire des miracles en arrivant devant, en plus, une équipe, comment on veut dire, en déconfiture, en défaite,
même
s'il y a eu un changement d'entraîneur. Hein. Alors, on verra ça, je pense. Il faut s'attendre maintenant pour le Canadien à voir des changements pour la saison suivante.
Oui, oui, on espère qu'il va se remettre. Hein, parce que vraiment, quand tu tombes comme ça, c'est le plus difficile, c'est de te relever. Voilà,
je pense qu'il est venu, moi, dans le but, je pense, de casser la glace. Et pas passer toute la saison sans revenir et se retrouver en septembre. Tout le monde l'attend. Il revient. Tu comprends?
Moi, je pense
que c'est une stratégie, ça.
Ok, d'accord.
Il est venu, il a cassé la glace, il est revenu sur la glace. Bon, il est debout sur ses deux pattes. Il a l'air plus ou moins bien.
Oui.
Donc, je pense que à mon avis, c'était très stratégique. Ça, c'est mon humble avis.
Et il a besoin de repos encore. Il a besoin de se retaper vraiment avant de revenir.
Exact. Alors, au tennis maintenant, après les mécontentements suscités par l'exclusion des Russes et des Biélorusses, les organisateurs du tournoi anglais Wimbledon du Grand Chelem ont dû s'expliquer. Ils ont déclaré que Wimbledon n'avait aucune autre option que de bannir les joueurs russes et biélorusses de la prochaine édition qui arrivera en juin-juillet. Pour participer au tournoi, les joueurs russes et biélorusses auraient dû remplir, disent-ils, une déclaration écrite contre l'invasion en Ukraine. Une situation qui aurait pu faire courir un risque aux joueurs et à leurs familles.
Ah oui, ça c'est clair.
Et oui, nous risquions aussi que leur succès ou participation soit utilisé par la propagande russe, ce que nous n'aurions pas accepté. Mais ils sont toujours mécontents, n'est-ce pas? Cette éviction a été vivement critiquée par l'ATP et la WTA, qui gèrent donc les circuits professionnels masculins et féminins, par de nombreux joueurs. Novak Djokovic s'est exprimé, évidemment. Il a qualifié de folle cette décision. Et le russe André Rublev, qui l'a gagné d'ailleurs chez lui, hein, il a gagné Djokovic le dimanche dernier chez lui, de totalement discriminatoire.
Oui, totalement discriminatoire, mais il ne faut pas oublier que tu vois, les Olympiens qui ont gagné, là, il vient de les recevoir à son palais là-bas, à Moscou, ou bien je ne sais pas, à Saint-Pétersbourg. Voilà, il va profiter de ça quand ils vont gagner, les recevoir là-bas.
Bien sûr. Tu penses que, exact, et s'ils les convoquent, tu penses qu'ils vont pouvoir dire non, je ne viens pas?
Ils ne pourront jamais dire non, vont se déplacer.
Alors, pour revenir à Djokovic, justement, on a parlé de lui là. Sachez que Novak pourra défendre son titre à Wimbledon, bien qu'il ne soit pas vacciné contre la COVID-19. Car la vaccination n'est plus nécessaire pour entrer en Grande-Bretagne.
Oui.
Alors le Serbe de 34 ans, il doit être content. Le Serbe de 34 ans actuel, donc numéro 1 mondial, a raté les internationaux d'Australie, rappelons-le, après la saga de son expulsion de ce pays parce qu'il n'était pas vacciné. Eh bien, le prochain tournoi majeur, celui de Roland-Garros en France, qui commence le 22 mai prochain, a décidé donc la directrice Amélie Mauresmo de pas empêcher Djokovic de défendre son titre 2021 à Paris. D'ailleurs, le Masters d'Italie aussi a décidé de faire la même chose, donc il est attendu maintenant presque partout.
Faut pas qu'il pense que parce que bon les comment dirais-je vaccins obligatoires un peu partout dans le monde c'est annulé qu'il faut toujours jouer au têtu là voilà parce que
ah,
c'est
oui,
pas
ben, parce qu'on sait hein lui là, il doit être fier là de ce que maintenant il peut arriver. Comme Bartaban, là. Hein
ouais. C'était un de mes joueurs préférés, en tout cas. Ouais.
En tout cas, c'était, je remarque. C'est ouais. Mon passé.
Mm-hmm.
OK.
Ouais, c'était.
Alors, pour la petite histoire et finir, on va parler donc de soccer. Le maillot de Maradona aux enchères. La semaine dernière, la vente aux enchères du mythique maillot que portait Diego Maradona face à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de football de 86 a démarré. Et quelques heures, tiens-toi bien Fulgence, après l'ouverture, une première offre de 6,5 millions de dollars avait été enregistrée sur la page internet de la vente. Cette dernière prendra fin, donc cette vente, le 4 mai.
Un maillot,
le maillot qu'il portait face à la Coupe d'Angleterre en 86, où ils ont gagné les Anglais. Hein?
Alors, celui qui va acheter ce maillot-là, combien de millions, là?
6,5 millions, j'ai dit, il y a des gens qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres, ok? J'aimerais ça qu'ils nous en jettent, nous aussi, un peu.
Ah ouais.
Alors, cela en ferait un prix record pour un maillot de football aux enchères, Fulgence, alors que le record tout sport confondu a été établi en 2019 pour 6 millions aussi, pour une tenue de la légende américaine de baseball, Babe Ruth. Alors, mais par contre, là, ça ne fait que commencer. Là, c'est le début. C'est déjà 6,5 millions. Alors, imagine à combien ça va clôturer le 4 mai.
Oui, oui. Mais cette personne qui va acheter ce maillot à 6 millions, ou bien à 10 millions, disons même 20 millions, là, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce maillot?
Je ne sais pas. Alors, attends, c'est pas fini.
Aller mettre dans un musée.
c'est ça.
Fait cadeau à un musée, je serais d'accord. Voilà.
Mais attends, parce qu'il vient de... Alors, en 2002, rappelons que déjà, c'était un record. Le maillot porté par le Brésilien Pelé en finale de la Coupe du Monde en 70 a été acheté à 340 000 dollars. Et c'était déjà un record à l'époque pour ça.
Oui, à l'époque, c'était
mais
un record.
Mais la controverse, une chose qui vient d'être lancée sur ces enchères-là,
oui.
Est-ce vraiment le bon maillot? Alors écoute, là, c'est la pagaille. La vente a un goût de controverse. Une partie de la famille de Diego Maradona, mort, donc rappelons-le, le 25 novembre 2020 à 60 ans,
oui.
A affirmé que malgré les assurances du site web donc qui veut vendre ce maillot, que le maillot vendu n'était pas celui porté par le capitaine argentin lorsqu'il a inscrit les deux buts légendaires qui ont fait qu'ils ont gagné en deuxième mi-temps.
Et ce maillot, il se trouve...
celui de la première mi-temps.
Voilà.
Alors, c'est bon, là. Moi, je rigole. Alors, Maradona, figure-toi, avait échangé son maillot à la fin du match
oui.
Avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester. Mais là, je pense que Manchester a besoin d'argent, fait qu'ils ont mis en vente le jersey.
À Monaghan, ok. Tu vois, je parlais de musée, là. J'ai dit de faire don, celui ça, qui va se mettre à faire un don à un musée, c'est alors ça. Que c'est déjà...
Mais il était déjà dans un musée, tu comprends?
Oui, oui, oui.
Alors, voilà, écoute, qui veut acheter... Écoute.
Je sais pas que... Je dis rien, Myriam, je dis rien.
Voilà, on va rien dire, toi. Puis j'en stoppe, on peut pas l'acheter, ce
maillot. Non, même pas 1 000 $.
Allez, je vous dis bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Myriam et bonne fin de semaine à toi aussi.
Bye.
Bye.
Nico,
Ni et Co, c'est un duo, hein. C'est pas la version originale de Adele, c'est bien Easy on Me, alors quel bon duo, hein. Voilà, vraiment c'est Ni et Co, une voix de femme, une voix de mec, comme on dit, voix d'homme, voilà, un bon duo là, très 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 sensuel aussi comme l'original bien sûr. Voilà, je vais parler du... Le 18e Gala Prix prend sa cour, c'est ce vendredi, ça dit demain 28 avril d'ailleurs, dès 17h à la Cinémathèque québécoise. Ben ouais, aura lieu la 17e édition du prix prend sa cour dans le cadre des 40e rendez-vous Québec Cinéma. Voilà, donc le cru 2022, ça c'est bien ça. Verra 55 films récompensés par les prix d'une valeur cumulant la somme de $279 000. Voilà, en argent et services décernés par un jury composé de 12 personnalités de l'industrie lors de cette soirée animée par Anaïs Favron. Et puis, et c'est alors que c'est lors de cette soirée que sera remis le prix coup de cœur Denis Villeneuve d'une valeur de 20 000 $ et puis remis par Denis Villeneuve lui-même à un court-métrage parmi les 55 films de sélection. Donc ce ne sont pas moins de 65 personnalités qui vont se succéder au micro pour remettre les prix lors de ce gala festif et rassembleur. Demain vendredi, voilà, 29 avril à la Cinémathèque québécoise. Voilà, c'est l'animation, remise de prix, 65 personnalités, comme je le dis, je ne vais pas les citer ici. Non. Si vous êtes, vous n'avez rien du tout à votre programmation dans la soirée demain, n'hésitez pas, faites un petit crochet là-bas, un petit saut pour aller rencontrer ces personnalités et aller voir qui a droit. Je ne sais pas si c'est sur invitation ou bien c'est ouvert au public. Hein, Nicolas? Alors, on s'est dit, voilà, c'est Jean Dugue. Pour ceux qui n'ont jamais, de toute façon, ça va être, je pense bien, ça va être vu en direct aussi sur le web, si je ne me trompe pas. Ou bien il y a une chaîne de télé qui a les droits de diffusion, peut-être, on ne sait jamais. Je ne sais pas laquelle. Voilà. Et les membres du jury, quels sont ceux qui ont cette lourde tâche de s'occuper de ça? Zeynep Blanchet, comédienne. Voilà. Alexandre Dosti, réalisateur, poète. Alexandre Jeanne Dubé, Laurence Baz-Moret, et puis Marguerite Pouchard. Ça, c'est les membres, différents membres du jury qui vont s'occuper, qui ont la grande tâche de. L'autre tâche de s'occuper de la festification, nomination, la remise des prix, désigner qui est qui, quel film qui gagne, quel film qui ne gagne pas. Alors, je reviens aussi rapidement sur la 15e édition des 6 leaders de la musique du monde dont je parlais aussi en début d'émission. C'est bien le 28, la finale, la grande finale. C'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le 28. Hier, c'était le 21. Ouais. À la Tulipe, à 20h, 28 avril. Et il y a les 3 finalistes dont je vais parler aussi qui seront là. Et puis, il y aura des différents prix là-bas. Pas mal de prix à distribuer quand même. Nicolas, tu me donnes l'adresse de la Tulipe, s'il te plaît.
Eh bien oui, dans le fond, l'adresse, c'est le 4530 avenue Papineau, Montréal.
Ouais,
530.
Merci beaucoup, Nicolas. Oui, la Tulipe, avenue Papineau, 4530, avenue Papineau. Voilà, c'est un très beau local d'ailleurs. Belle salle de spectacle. Souvent, la plupart du temps, avant la pandémie, je crois bien que les gens étaient habitués à assister à des soirées les vendredis, les samedis, avec DJ, des soirées dansantes là-bas. Je ne sais pas si ça a repris depuis que toutes les mesures sanitaires ont pris congé des places publiques, surtout des salles de spectacle, parce que toutes les salles de spectacle fonctionnent maintenant. Voilà, tout est ouvert et il n'y a même plus de distanciation de 2 mètres physique. Non, c'est fini tout ça. Donc, on peut se permettre quoi. On garde le masque quand même. Oui, mais il y a des gens qui ne gardent même pas les masques. Il y a des gens, je sais pas. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent encore d'aller dans les salles de spectacle. Alors, on termine en beauté cette première partie de l'émission avant de recevoir notre invité en deuxième partie. On termine avec Steven Marley, Freedom Time.
Time when man must be free.
Steven Marley, Freedom Time. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je reçois l'invité qui va nous parler de ce spectacle qui lui est consacré d'ailleurs. C'est portrait spécial. Linda Bouchard, portrait le concert Brasier à la salle Pierre Mercure. Ça va être le dimanche 1er mai à 15h. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on l'aura au téléphone avec nous. Voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Le microcosme et le macrocosme. Deux pôles d'exploration et de connaissances qui me portent depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon travail de composition s'inspire souvent de la géométrie, de la structure, des textures, de phénomènes naturels. Comme si l'observation à la loupe d'éléments naturels ou de réactions chimiques pouvait créer des paysages sonores abstraits. Je continue d'être bouleversée par la beauté de la nature, devant la force de l'eau, par exemple, de toutes ses textures, ou du feu, devant toutes ces transformations, de la braise à la flamme. J'écris une musique non linéaire parce que je pense qu'on fait l'expérience de la vie de façon non linéaire. On vit des expériences, particulièrement les expériences les plus importantes, les plus intenses. Elles sont construites d'un amalgame d'informations, d'images, de sensations, d'émotions qui forment un tout. C'est de cette façon-là que je construis ma musique.
On vient d'écouter, ça c'est la voix de l'invité qu'on devait avoir, mais on n'arrive pas à l'avoir du tout, ça marche pas la ligne téléphonique, tombe sur la boîte vocale tout le temps. Alors moi c'est une personne qui est, c'est une Québécoise qui vit à San Francisco, c'est une compositrice, orchestratrice, chef d'orchestre et productrice active depuis plus de 35 ans, lauréate à la fois du compositeur de l'année du Conseil québécois de la culture et du prix Joseph Stauffe du Conseil des arts du Canada en 99. Elle a reçu la bourse aussi FLEC du Banff Centre à l'automne 2015. Ses honneurs aux États-Unis, où elle vit actuellement, comprennent les premiers prix au concours de composition de Princeton, au concours d'État de l'Indiana et au concours de l'Association nationale des compositeurs des États-Unis et un prix de la Fondation From Music de l'Université Howard. Ses œuvres sont régulièrement entendues par des ensembles tels que l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Toronto, le Royal Concert Orchestra, l'Orchestre symphonique de Vancouver, le Winnipeg Symphony, le Prince Edward Island Symphony Orchestra. La liste est très longue. Et puis, ces œuvres aussi ont été enregistrées des deux côtés de l'océan Atlantique au Canada par le label CBC, label Orchestre Métropolitain, Analecta aussi, SMCQ, Marquis Classique, Orchestre Centre National des Arts et CMC Standing Wave en Allemagne par l'EMC Kim Karchazian et Robin Schulkowski, et aux États-Unis par plusieurs artistes des banques. Elle a été directrice adjointe du New York Children's Choir, Children's Free Opera de 1985 à 1988, et a dirigé l'orchestre de Saint-Luc American Dance Festival. Et puis son parcours était tout un parcours, là, je vous le dis. Voilà, c'est tout un parcours. Ouais, je vais commencer. Ouais, elle est maintenant au téléphone. Je vais lui dire rapidement bonjour et puis on va parler de ce spectacle qui aura lieu le dimanche 1er dès 1er mai, mais à 15h. C'est bien à 15h, ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien à 15h. 1er mai, à la salle, salle Pierre Mercury, c'est le centre Pierre Belladru qui est situé au 300 boulevard de Maisonneuve. Alors, tout de suite, je vais lui dire bonjour avant de continuer avec elle. Bonjour, Linda Bouchard.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Je suis content de vous avoir. Enfin, je me suis dit, ben, on ne peut pas. L'homme propose, mais la technique dispose. On tombait toujours sur la boîte vocale.
Écoutez, je suis désolé, je ne comprends pas. J'étais toute bien connectée. Tout d'un coup, je vois que mon téléphone avait reçu 5 appels. Je dis, voyons donc. Je suis toute là.
Vous êtes toute là. Merci beaucoup, Linda. Alors, comment on se sent quelques jours de ce grand spectacle, ce honneur que la SMCQ vous fait, ce portrait spécial Linda Bouchard? Comment on se sent à quelques heures, à quelques jours de ce grand spectacle?
Écoutez, c'est fantastique. C'est un grand honneur. C'est très rare qu'on a la chance de... qu'on a la chance d'avoir plusieurs œuvres de jouer. Ce sont des œuvres ambitieuses, des œuvres intenses. Les musiciens sont fantastiques. Écoutez, je faisais plus d'anxiété il y a un mois. Là, je suis vraiment juste super excitée. Ça va bien, les répétitions. Ça sonne bien. J'ai tellement hâte qu'on répète dans la salle.
Oui.
Et puis, ben voilà. Écoutez, ça va être une heure de musique avec des musiciens vraiment magnifiques.
Les absents auront tort.
Écoutez, c'est un événement qui est très, très, très rare. Habituellement, les compositeurs qui sont comme ça joués, ben écoutez, ils sont dans leur tombe, hein, ils sont pas vivants pour l'entendre.
Ah voilà. Oui, non. Oui, c'est vrai. alors c'est, quand je vois votre parcours, je me suis dit, mais voilà. Sincèrement, c'est Canada, États-Unis, vous êtes revenu, vous êtes reparti, maintenant vous êtes installé à San Francisco. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix?
Écoutez, vous savez, dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a des occasions qui se posent devant nous, et puis c'est comme un train qui passe.
Oui.
Et puis on saute dans le train.
Oui.
Et tout à coup, on se retrouve ailleurs. Moi, je me souviens d'avoir été à New York. J'avais 21 ans.
Oui.
Et puis d'être au coin de la 61e et Broadway et de me dire, eh ben moi, je vais déménager ici. Et puis en effet, écoutez, je suis allée à New York pour 2 mois et j'ai passé 11 ans.
Oh.
Allez savoir. Et puis, je suis revenue à Montréal pour un concert, d'ailleurs, que Walter Boudreau, le directeur artistique de la Société de musique contemporaine, qui me propose ce super de beau concert. Walter Boudreau, qui me commande une œuvre en 1990.
Oui.
Et je compose une œuvre pour orchestre. Je viens pour ce concert et je découvre tout à coup cette ville de Montréal, cette ville que j'avais quittée lorsque j'étais assez jeune, que je ne connaissais pas.
Oui.
Et je me rends compte que Montréal est une ville fantastique, une ville dynamique, et ça me donne le goût de revenir. Alors, je reviens à Montréal à ce moment-là pendant 7-8 ans. Et je suis très active et je profite d'une ville et d'un pays qui est vraiment magnifique et
oui.
Très, très, très riche culturellement.
Mm-hmm.
Et puis voilà, écoutez, puis tout à coup, entre-temps, j'avais marié un Américain. Et puis voilà, vous savez, parfois, hein, qui prend mari prend pays, alors...
Ça, c'est pour ça qui prend mari prend pays. Merci d'arriver à me faire rire avec ça, Linda. La poésie des phénomènes naturels. C'est ce portrait qui va emporter le public dans une musique rythmée par la poésie des phénomènes naturels et dont les différentes states et influences dessinent un paysage sonore singulier. Ça vous décrit comme ça, hein, votre... Oui.
Oui, écoutez, ma musique, elle est influencée par la nature. Elle a toujours été influencée par la nature. Et puis même, je vous dirais, j'avais donné une conférence dans le Texas, à un moment donné, dans les années 80.
Oui.
J'avais donné une conférence sur ma musique dans le Texas, et puis c'était des cowboys et des fermiers qui étaient là et qui écoutaient cette conférence. C'était fantastique. Et ils étaient très ouverts et ils me disaient, mais écoutez, c'est comme quand on est dehors et qu'on entend la nature, le feu qui crépite, les oiseaux, la nature qui nous chante finalement. Et c'est ça. Alors moi, la nature me parle, la nature, pas juste la nature d'une façon romantique, mais aussi d'une façon sensuelle, d'une façon chimique, d'une façon... et comme si on regardait finalement la nature à la loupe.
Oui. Wow. Comme ça se dit, oui, l'observation à la loupe d'éléments naturels tels que l'eau, le gaz, les formations rocheuses ou les réactions chimiques.
Voilà.
Tellement bien dit. Ouais. Et comment vous avez réagi quand la SMC qui vous a contacté vous parlait de ce spécial, de ce concert spécial, de ce portrait spécial de Linda? Comment vous avez réagi?
Oh, écoutez, très vite. Et puis j'ai imaginé, je pense, une vingtaine de programmes différents parce que j'ai plus de 100 œuvres et chaque programme était plus compliqué, plus ambitieux l'un de l'autre jusqu'à temps que j'arrive à quelque chose que je trouve qui soit cohérent musicalement
oui.
pour l'auditoire. Parce que finalement, on appelle ça un portrait, mais c'est vraiment impossible de couvrir l'œuvre de quelqu'un qui compose. Moi, j'ai fait de la musique. J'ai fait de la musique orchestrale, j'ai fait de la musique de théâtre, j'ai fait de la musique de danse, j'ai fait de la musique électronique, j'ai fait toutes sortes de choses finalement. J'ai fait de la musique multimédia.
D'ailleurs, cette histoire de musique électronique et puis de multimédia, votre nouvelle orientation aussi, on va parler de ça aussi en deuxième partie. On va écouter deux pièces de vous là encore. On a écouté une première intervention au début où le téléphone ne marchait pas. Et puis bon, on écoute deux pièces en même temps. Elles sont très courtes. On va écouter Brasier et puis Compression.
D'accord.
Et puis on vous revient, on va parler de cette nouvelle orientation concernant l'électronique, la nouvelle technologie, tout ça.
Merci.
Vous avez attendu ces deux pièces dont je parlais, sont très courtes, c'est de Linda Moucha, Brasier et puis Compression. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Linda, de ces deux pièces? Attendez, d'abord, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis jeune, mon invité était toujours avec moi, Linda Moucha, qui est compositrice, orchestratrice, chef d'orchestre et productrice. C'est dans le cadre du concert spécial de la part de la SMCQ, le portrait de Linda Brasier, qui aura lieu ce dimanche-là, à 15h, 1er mai. Alors, parlez-nous un peu de ces deux pièces qu'on vient d'écouter, s'il vous plaît.
Écoutez, Brasier, c'est une œuvre qui est une commande de Vancouver New Music.
Oui.
Et puis, c'était une œuvre qui était programmée sur en même temps que des œuvres d'Edgar Varèse.
Oui.
Et Edgar Varèse, un compositeur du 20e siècle, qui avait eu beaucoup d'influence sur moi. Alors, j'étais ravie de composer une œuvre comme ça. La raison pour laquelle j'étais si contente, c'est que justement, je trouve que Varèse, c'est un compositeur qui a été sous-estimé dans l'impact de sa musique, parce qu'il travaille en strates, en gros blocs sonores.
Oui.
Et c'est ce qui m'avait beaucoup inspiré dans sa musique.
Oui.
Et puis, écoutez, compression, les deux, c'est curieux, parce que les deux extraits que vous avez joués, ce sont deux extraits où on pourrait presque imaginer que c'est la même œuvre qui est jouée.
C'est ça.
C'est vrai, c'est quand même curieux, c'est que je joue avec des espèces de rythmes qui se croisent, des espèces de blocs, des espèces de rythmes qui se croisent comme ça. Dans Compression, c'était une commande de la SMCQ.
Oui.
Et puis c'était une commande pour un moment où, dans les années 95-96, où le gouvernement nous demandait de nous serrer la ceinture. Et on venait d'apprendre que les banques venaient de faire des profits absolument vertigineux.
Oui.
Et puis, c'était la tollée. Alors, on continue naturellement de vivre ces espèces d'écarts-là entre les banques ou les billionnaires américains qui font des profits absolument extravagants. Alors, cette œuvre-là, elle montre, et l'extrait qu'on vous a donné ne démontre pas cette espèce de moment-là où il y a un petit ensemble de cordes, de harpes et de contrebasses qui s'opposent à des cuivres et à des percussions.
Oui,
alors
oui.
Voilà, c'est un espèce de jeu un peu musique théâtrale, si vous voulez,
oui.
Entre deux ensembles qui ne sont pas égaux au point de vue de leur force.
Oui, voilà. Oui. Merci beaucoup de l'explication. Et cette histoire des œuvres multimédia, depuis 10 ans, vous créez des œuvres multimédia tout en continuant bien sûr à composer. Avant d'arriver là, je vais vous demander, expliquez, qu'est-ce que c'est que une orchestratrice ou bien un orchestrateur? Est-ce que c'est un arrangeur? Expliquez-nous un peu.
Oui, bien écoutez, moi, vous savez, quand on est compositeur, compositrice, de musique contemporaine. Moi, j'ai toujours eu un autre métier pour gagner ma vie. Donc, quand j'étais à New York, j'ai fait toutes sortes de métiers. Et un des métiers que j'ai fait, c'est que je faisais de l'orchestration pour des églises.
Oui.
Et pour le New York City Ballet et le Washington Ballet.
Oui.
Ce qui fait qu'eux, ils ont des orchestres, n'est-ce pas? Et souvent, ils font des œuvres qui ils ont besoin d'avoir que ce soit arrangé, si vous voulez, pour leur orchestre.
Oui.
Et donc, on a besoin de quelqu'un qui va orchestrer, si vous voulez, qui va mettre ces œuvres-là à la portée de leur orchestre. Alors, moi, je faisais ça, des orchestrations. Souvent, à New York, pour pendant la période de Noël, je faisais des orchestrations pour des concerts de Noël.
Oui. Oui.
Je faisais des chants de Noël, toutes sortes de tunes comme ça. Alors, c'est comme ça que je suis devenue orchestratrice. Et j'aimais beaucoup faire de l'orchestration comme ça. Je travaillais pour l'orchestre de St. Luke's Orchestra à New York. Donc, j'ai fait beaucoup d'orchestration. Et puis, voilà. Et moi, j'ai fait donc de la musique vraiment de concert, sans même amplification, pendant plus de 25 ans, parce que je trouvais que la musique électronique était laide. J'aimais beaucoup mieux travailler avec les musiciens, le son était tellement plus beau. Mais à un moment donné, la technologie s'est vraiment améliorée.
Oui.
Et je me suis rendu compte dans les années 2000 que finalement, il y avait des belles choses qui se passaient avec les nouvelles technologies. Et je me suis, au moment où j'ai finalement déménagé vers la côte ouest,
oui,
à San Francisco, au début des années 2000, je me suis mis à étudier les nouvelles technologies.
Oui.
Et je me suis mis à faire du multimédia à ce moment-là. Et le multimédia, ce qui m'a attiré dans le multimédia, pour vous dire honnêtement, c'était l'idée de collaborer, de travailler avec les danseurs, de travailler avec les improvisateurs, de travailler avec des gens de d'autres milieux et de faire des choses ensemble et de sortir un peu d'une espèce d'espace qui est un petit peu restreint parfois dans des espaces de concert où on est serré dans les temps de répétition, on écrit la musique, vous savez, et puis on a un temps très limité. On a un temps très limité de répétition et puis voilà, on fait le concert. Parce que j'avais le goût, moi, de travailler avec les musiciens et puis qu'on essaie des choses, qu'on retravaille des choses et puis voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire finalement dans le multimédia, c'était d'être comme un atelier perpétuel pour une œuvre.
Ah oui, oui, je comprends. Pour avoir cette collaboration avec d'autres artistes, quoi, en gros.
Oui, dans d'autres milieux, dans d'autres domaines.
Dans d'autres domaines,
voilà.
Oui, oui.
Exactement.
Mais vous continuez toujours quand même la composition de la musique pour la salle de concert, bien sûr. Oui. Wow.
Absolument. Mm-hmm. Oui, il y a d'ailleurs une création. Vous savez, il y a une création dimanche. Une œuvre que j'ai composée spécifiquement pour le concert de dimanche. Une œuvre qui a été inspirée par la pandémie, d'ailleurs. Une œuvre qui s'appelle Fracture. Une œuvre qui... sur laquelle j'ai travaillé très, très fort. Et je suis très émue parce que j'ai un feedback qui est absolument... qui me touche beaucoup de la part des musiciens. Alors, j'ai très hâte de la livrer
oui. À
vous tous, au public, dimanche.
Comment vous avez vécu cette période de pandémie, Linda?
Écoutez, moi, j'ai senti ce moment-là de pandémie comme une rupture dans notre flot humain. Hein. Vous savez, on était... Moi, en tant que compositrice, dans deux semaines, tout mon travail a disparu. J'avais un concert en Nouvelle-Zélande, j'avais des trucs en France, j'avais des trucs ici à Vancouver,
oui. Même
une tournée en Amérique du Sud. Et tout à coup, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pendant des années, vous savez.
Oui.
Et tout à coup, pouf, dans deux semaines, tout a disparu.
Oui.
Et c'était une espèce de vertige. Hein. On s'est dit, ah! Puis on s'imaginait que ce serait deux semaines, deux mois, six mois, bon... 8 mois, peut-être. Et tout à coup, alors, c'était une espèce de vertige, on s'est tous retenu le souffle pendant un moment, et je pense que c'est comme si on s'est rendu compte à quel point notre planète était petite.
Qu'on était rien.
On
était rien.
Ouais, on est tous très rattachés l'un à l'autre.
On était si vulnérables.
Oui, tellement vulnérable, d'une grande vulnérabilité, très retenue l'un à l'autre.
Oui.
Et puis, ben voilà, alors Fracture, c'est ce moment-là, ce moment de fracture et ce lien-là que l'on a tous dans notre humanité. En tant que, alors voilà, c'est une œuvre qui que je vous livre dimanche.
C'est dimanche.
Donc je suis très fière, honnêtement.
Ah, je le dis, les absents auront tort. Ça, c'est... Et en 2017, voilà, en 2017, vous avez reçu le prix de Davidson de l'Orchestre symphonique de Victoria au Canada. Et vous avez été invité aussi à donner une conférence. Ça, c'est des petites choses comme ça. Des choses, pas des petites choses, des grandes choses. J'en ai mes numéros au début quand on n'arrivait pas à vous avoir au téléphone. Une conférence à la conférence de la German Society for Music Theory du 4 au 6 octobre 2019 à l'Université des Arts de Zurich. J'ai dit, mais où elle n'est pas passée? Elle est passée partout. Alors, pour la dernière minute qui nous reste, un dernier mot, je vous laisse le micro.
Écoutez, vous me laissez le micro. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que cet événement-là, ça me touche beaucoup parce que... Moi, je suis née au Québec. Hein.
Oui,
J'ai passé presque toute ma vie adulte aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui.
Mais je reviens à Montréal 2, 3, 4 fois par année. C'est comme un élastique ou un boomerang.
Hein. C'est ce qui fait que vous n'avez pas perdu le français, Linda.
Ben non, pas du tout. Malgré que j'ai vécu la plupart de ma vie professionnelle aux États-Unis,
oui.
Aux États-Unis, on me considère... Ah oui, la compositrice canadienne.
Ah, okay.
Ah ben oui, voilà. Alors moi, je suis une Canadienne qui est constamment de passage aux États-Unis.
Oui. Merci beaucoup, Linda Boucha, compositrice. Oui, allez-y, terminez, allez-y.
Ah non, c'est beau, je vous remercie de m'avoir invité.
C'est moi qui vous remercie, et bon spectacle dimanche.
Merci pour tout, au revoir.
Merci, au revoir. Thank you. On a la fin de l'émission d'aujourd'hui comme ça. C'est l'avant-dernière de la semaine. Demain, ce serait la dernière. Mais on n'est pas encore demain. C'est Regina Carter, When I Hear Your Name, quand j'entends votre nom, quand j'entends ton nom. Merci à toi, Nicolas. Puis je te souhaite une très belle semaine de vacances.
Eh bien, merci.
Voilà, merci, j'espère merci. Que tu vas bien profiter.
Définitivement.
Voilà,
et puis je vais essayer d'en profiter.
Voilà.
Je vais essayer de mon plus fort.
Tu reviens en forme, hein.
Ça, c'est ça.
J'ai dit merci à Myriam Larache et puis à notre invitée, Linda Bouchard, compositrice, orchestratrice, chef d'orchestre et productrice pour son spectacle d'ailleurs. Et le brasier portrait de Linda Bouchard de la part de la SMCQ, de la Société de musique contemporaine du Québec. Alors, et vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, je vous dis merci. Prenez soin de vos minutes et être à l'écoute de chaque étincelle de vie en vous. Sur ce, je vous dis ciao.